France Culture.
Votre attention, s'il vous plaît.
Ce sont des croûtes.
Un jour, j'ai fait un escargot et on aurait vraiment dit un escargot. On dirait des serpents.
Ouais. Le problème de nos contemporains, c'est qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus le goût.
Le goût du beau.
Est-ce que les arbres étaient beaux avant que Corot les ait peints? Non!
Hi, Dolly. Darling. I adore your work. I just adore your work. I adore.
Voilà. Je vous laisse avec l'art, c'est-à-dire l'artificiel, qui nous protège du retour au préhistorique.
France Culture, allons-y voir. Patrick Boucheron.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Approchez, approchez, 5 francs, rien que 5 francs, en exclusivité pour la première fois à Paris, le baiser de l'artiste. Un vrai de vrai, pour le prix populaire de 5 francs, service soigné, une œuvre conceptuelle pour toutes les bourses, ne vous censurez pas. Ah, c'était bien le problème, en 1977, ne pas se censurer. Et quand l'artiste féministe Orlan propose sa performance « Le baiser de l'artiste » en octobre 1977 à la FIAC du Grand Palais, évidemment qu'elle fait scandale. Elle vient d'écrire deux textes dont le titre même définit l'enjeu de son geste. « Face à une société de maires et de marchands » et « Art et prostitution ». Et de fait, les visiteurs avaient le choix entre offrir un cierge à une madone ou acheter un baiser à une femme vêtue d'un bustier en forme de distributeur. L'argent et le sexe, la maman et la putain, c'est bien ça. Mais si le scandale était ailleurs, s'il était dans l'usage de l'humour comme arme politique par des féministes qu'on accuse, pardon, mais c'est ainsi que disaient alors et que disent encore les hommes, d'être des mal baisés, même pas drôles. Eh ben, vous savez ce qu'il nous reste à faire. Allons-y voir. La marade, ce ne serait donc pas seulement le rire gras des hommes ? La marade, c'est le titre d'une formidable exposition qui se tient au lac de Dunkerque jusqu'au 8 mars. On en parle aujourd'hui en compagnie de Camille Paulhan et Fabienne Dumont, bientôt rejointes par notre sociétaire du jour, Sophie Gras. On en parle aujourd'hui au moment où l'on doute tant de la valeur subversive du rire politique et que l'on se souvient avec nostalgie, inévitablement, de Claire Bretéché.
C'est-à-dire, si tu veux, je fais acte de féministe en mettant des femmes là où autrefois on mettait des hommes. Dans les bandes dessinées, il n'y avait que deux types de femmes. Il y avait ou la pépé gironde ou la mégère. Il n'y avait vraiment que ça, dans les scènes humoristiques aussi. Moi, je mets des gens, des filles normales et courantes, et comme toi, moi, enfin, qui sont ni l'un ni l'autre. Ni gironde, ni pépé gironde, ni mégère.
Bonjour Camille Paulhan.
Bonjour.
Vous êtes critique d'art et historienne, vous enseignez à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon, vous êtes commissaire de l'exposition qui se tient, je l'ai dit, à Dunkerque jusqu'au 8 mars, La Marade. Et ce que vous aimez, c'est couper à travers les ronces, tel est le titre de votre essai paru en 2021 aux éditions Sombre Torrent. D'ailleurs, on demande parfois à nos invités comment il ou elle souhaite être présenté. On n'en tient généralement aucun compte, mais là, je vais lire ce que vous nous avez envoyé, car cela donne le ton. Vous parlez et écrivez sur la scène artistique Castelroussine, les homonymes, vous parlez des ateliers d'artistes, des boîtes de conserve, des chauffeurs de taxi basque, des pages hygiène et beauté, des catalogues La Redoute, des livres d'or, les salons funéraires, les boulettes, les anecdotes, les milieux de carrière, les gommes, les maisons hantées, l'humour féministe, les métaphores excrémentielles dans les œuvres chocolatées, point virgule, entre autres. Vous parlez et vous écrivez sur tout ça, et aussi, et d'abord, l'humour féministe, c'est ça?
Oui, tout cela est tout à fait vrai.
Tout est vrai, puisque tout est exact, puisque c'est ce que vous nous avez dit,
en fait.
C'est-à-dire une histoire de l'art qui déborde tout de même les cadres qu'on lui assigne.
Oui, qui sait s'étaler, voilà.
Qui sait s'étaler, parfait. Bonjour Fabienne Dumont.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'histoire de l'art contemporain à l'université Jean Monnet Saint-Étienne et spécialiste des questions féministes. Sur ce sujet, vous avez publié en 2014 un livre de référence, Des sorcières comme les autres. On verra tout à l'heure d'où vient ce titre. Artiste et féministe dans la France des années 70 aux presses universitaires de Rennes, que vous définissez dans son introduction comme une histoire des femmes manquante. Parmi ces femmes manquantes, que vous avez en tout cas contribué à mettre en lumière par des monographies, par des entretiens, par l'édition de ces textes, par une exposition à Metz, est l'artiste Neil Yalter. Vous pouvez nous en dire un mot ?
Neil Yalter, c'est une figure, c'était une rétrospective, la première grande rétrospective en France de son travail en 2019 au MacVal.
Oui.
Et il y avait eu effectivement à Metz, avant, une rétrospective un tout petit peu plus petite au FRAC Lorraine. C'est une artiste qui a cumulé en fait les interventions féministes, les questions d'immigration, les questions de genre, les questions ouvrières aussi avec les classes sociales. Et donc dans tout son travail est traversé, notamment l'immigration et une bonne part du travail, mais toujours articulé avec des perspectives féministes et ouvrières. Donc c'est il y a une cinquantaine de grands projets magnifiques, très travaillés, très ethnographiques de cet artiste qui a été redécouvert.
Et oui, on va faire plein de découvertes aujourd'hui. Et puis voilà, nous sommes à Dunkerque avec votre exposition La Marade. Bah, j'imagine que au fond vous avez tout de suite pensé à cette œuvre sur laquelle on va revenir, hein, le baiser de l'artiste. Elle aurait pu être à plein d'endroits différents finalement de votre exposition, cette œuvre, Camille Paulhan.
Oui, c'est vrai, c'est une œuvre qui a été un peu le point de départ de réflexion sur La Marade. Cette œuvre d'Orlan, c'est une œuvre aujourd'hui assez iconique de l'art féministe de la fin des années 70. C'est une œuvre que, comme beaucoup de jeunes historiennes de l'art, j'avais découvert dans les livres, hein, tout simplement. Oui. Et que j'avais découverte justement sous l'angle féministe, engagé, tout en oubliant presque sa dimension ludique, humoristique,
drôle, oui,
sarcastique. C'est que toutes les dimensions de l'humour que pouvait révéler cette œuvre étaient d'une grande densité, mais étaient un peu gommées par la dimension politique, comme si les deux étaient finalement incompatibles.
Or, effectivement, l'esprit de sérieux et justement le militantisme, c'est pas nécessairement, obligatoirement lié. Fabienne Dumont, cette œuvre, on peut la décrire un peu. C'était, bah, justement, vous parliez d'installation, de performance. C'était ça, d'abord, le baiser de l'artiste d'Orlan.
Le baiser de l'artiste, pour moi, c'était une joyeuse provocation. Elle était vraiment dans une forme de provocation avec cet appel. Elle racolait, en fait. Elle appelait les gens à venir mettre 5 francs, donc soit pour un vrai baiser de l'artiste. Et elle a beaucoup insisté sur le fait que c'était un baiser avec la langue. Donc, il y avait ce côté très charnel. Elle parle d'art charnel. Donc, ça, c'est assez... Même si on est en 77 et que le mouvement de libération des femmes est là, on parle de sexualité libérée depuis un petit moment, c'est quand même pas si évident donc ça pour une femme de se poser dans cette position-là. Et l'autre choix, c'était de mettre un cierge, donc on pouvait mettre 5 francs aussi, donc à la Madone. Et donc elle va bien pointer du doigt ce que les féministes pointent avec humour à ce moment-là, c'est ce décalage entre le rôle de la sainte mère vierge d'un côté et de l'autre, la femme libérée, putain, prostituée, la mauvaise fille. Et Orlan, elle va jouer avec le fait de... Je possède mon corps, j'en fais ce que je veux et je vous fais l'humour, elle dit.
Je donnais un vrai baiser d'artiste, pas un bisou enfantin mais un French kiss, bien sûr. J'embrassais avec la langue, c'était indispensable puisque ça se passait au Grand Palais, lit-on dans le catalogue de votre exposition La Marade, qui est fait aussi de nombreux entretiens de ces femmes. C'est qui Orlan à ce moment-là? Elle a déjà fait cette performance l'année d'avant au Portugal, à Lisbonne, et puis elle a déjà produit différentes œuvres remarquables, Camille Paulhan.
Oui, alors c'est une jeune artiste à ce moment-là. C'est une artiste qui s'infiltre aussi justement à la FIAC, qui a ce désir comme ça de pouvoir infiltrer, y compris avec une sorte de mauvais goût,
oui,
qui est très important, je pense, dans cette œuvre. L'art à la portée de toutes les bourses, par exemple. On peut imaginer que ça ne faisait pas rire tout le monde à l'époque. Je veux dire, le marché de l'art est quelque chose de très sérieux. Et faire rire, venir avec ce bustier. On n'a pas décrit aussi que ce bustier a un sein qui clignote, a aussi une alarme qui signale que le baiser est terminé, joue la marche nuptiale quand le baiser est en train de se faire. Et puis il y a cette, voilà, cette sirène en fait qui retentit une fois que le baiser doit être terminé et que les choses doivent s'arrêter immédiatement. Donc on a un mélange comme ça de... d'un rire provocateur, un peu grand guignolesque, parce qu'effectivement, elle vient racoler, elle appelle, 5 francs, c'est pas cher. Et une réflexion tout de même assez pointue, assez difficile sur ce que peut être la prostitution aussi d'une artiste dans le cadre d'un marché.
Bien sûr. Alors évidemment, dans le cadre d'une exposition comme la vôtre, ben, on peut se poser la question de qu'est-ce qu'on expose. Alors vous exposez une photo, vous exposez des archives, mais aussi un reportage de France 2. C'était le 30 octobre 1977. Écoutez.
Un vrai baiser d'artiste pour 5 francs. Un vrai. Mesdames et messieurs, c'est pas cher. Monsieur, vous voulez un baiser?
Attendez la musique. La seule chose que j'ai à vendre, c'est tout ce travail sur mon corps, qui peut être aussi bien des photos, qui peut être une intervention, une performance, une action.
Et en quoi le baiser est-il une œuvre d'art?
À l'heure actuelle, si vous voulez, l'art a changé quand même beaucoup. Il n'est plus du tout comme au 19e siècle, et c'est plus toute une réflexion et sur l'histoire de l'art qui tout à coup produit quelque chose en nous, ou une réflexion sur l'art dans la société, etc. Donc il faut voir, si vous voulez, ma démarche. Non pas comme uniquement un gadget, mais toute une réflexion sur justement la position de l'art et de l'artiste et du corps de la femme à l'heure actuelle et dans la société. Et pour moi, le corps de la femme est un matériau nouveau.
Moi, je suis un provincial, j'imagine très bien, excusez-moi, les gens de toute la France qui vont s'asseoir devant leur télé en sortant soit de leur boulot, de l'usine, etc., et qui ont une certaine idée de l'art.
Et quelle idée ils ont de l'art? Est-ce qu'ils ont une idée de l'art de ce qui est ici? Est-ce que ça peut les atteindre n'importe comment? Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Vous n'allez pas me dire que vous faites de l'art populaire, je ne sais pas qui vous êtes. Vous n'allez pas dire que tout ce qui est ici est à la portée de M. Dupont qui rentre de l'usine? Ça va le faire marrer au moins mon truc, c'est déjà bien, après une journée de travail.
Pour moi, qui suis encore un peu traditionnaliste, l'art se traduit par une... C'est une expression avec la plume, avec de la matière. C'est une sculpture, ça a une existence dans l'espace.
C'est Brigitte qui m'a dit tout à l'heure.
Voilà, vous avez entendu Fabienne Dumont, tous nos thèmes y sont, l'art, la prostitution, même la classe ouvrière, la question évidemment de la domination sociale. Alors elle s'infiltre, dit fort bien Camille Paulhan, c'est-à-dire qu'elle joue aussi de cette société du spectacle que Guy Debord décrit cette même année d'ailleurs. Elle est partout invitée sur les plateaux de télévision, elle est moquée mais elle se défend. C'est tout ça aussi la deuxième partie des années 70.
Alors je dirais que oui, elle se défend, parce qu'effectivement, il faut voir la tête du présentateur quand sur France 2, il termine, il clôture l'entretien. Il est vraiment, il a une tête dubitative, comme ils doivent jamais en avoir pour d'autres entretiens. Donc on voit bien que c'est compliqué pour lui d'accéder à cette œuvre. Mais elle s'inscrit, puisque la question était aussi sur l'inscription, elle s'inscrit dans tout un mouvement social. Donc on a des manifestations depuis 1970 dans la rue. On a Orlan aussi qui a déjà préparé le terrain. En 68, elle a réaliser une œuvre avec ses amis et amants qui s'appelle Plaisir brodé.
Oui.
Et elle leur demande donc de d'éjaculer du sperme sur les draps du trousseau, puisque elle a découvert, elle n'avait pas de culture catholique, donc elle a vraiment pris, elle le dit d'ailleurs dans l'entretien, l'extrait, l'histoire de l'art, avec toutes ces références catholiques partout, de ces madones notamment. Et donc elle a décidé de travailler à défaire ces images et à retrouver aussi le plaisir, la jouissance à l'intérieur de ces images qui circulent partout.
Camille Paulhan, il y a cette histoire, effectivement, de draps, cette histoire de striptease qu'on retrouve dans d'autres œuvres.
Oui, alors, Il y avait quelque chose que je voulais préciser par rapport au baiser de l'artiste, parce que ça rejoint aussi les œuvres d'Orlan qui travaille sur le drapé. On est à la radio et on n'a pas évidemment les images, oui. Mais dans le petit reportage que l'on a entendu tout à l'heure, à un moment, elle explique de manière assez claire, assez nette, ce qu'elle est en train de faire et comment c'est une déconstruction aussi de son corps. Et le ou la caméraman, bien que, à mon avis, c'est plutôt le caméraman, zoom sur sa bouche d'une manière extrêmement dérangeante et à un moment, de toute évidence, se rend compte de sa bévue et dézoome progressivement et même un peu rapidement. Parce que justement, c'est-à-dire que tout à coup, ce qu'elle, elle tente de dénoncer avec beaucoup d'humour, qui est aussi cette objectivation du corps des femmes, est rejouée dans le reportage même que l'on a au journal télévisé, avec cette insistance sur sa bouche. Alors que, dans ce moment, elle se montre profondément maîtresse d'elle-même, elle dit « attendez la musique, merci », elle repousse un peu la personne qu'elle vient d'embrasser.
Elle sera même invitée chez Philippe Bouvard. Donc,
tout à fait.
Donc c'est là où il faut effectivement avoir du cran pour résister à la rigolade, en fait.
Il fallait avoir pas mal de cran pour aller dans l'émission de Philippe Bouvard, parce que justement, les artistes contemporains, et notamment Orlan, étaient tout de même invités en partie pour qu'on puisse les humilier.
Oui.
Et elle s'en sortait très bien et avec beaucoup de panache, ce qui n'était pas si facile. Et même là, dans l'émission, elle s'en tire très bien. Mais évidemment, elle est obligée d'avoir un discours un peu d'autorité, ce qui clairement contrevient à l'idée que l'on se fait d'une femme qui rit et qui a de l'humour.
Alors on avait le choix donc entre la Madone et la Putain. Sur la Madone, sur effectivement cette culture catholique de l'art, vous avez une œuvre sous les yeux. Est-ce que vous pouvez la décrire, Camille Pollan?
Oui, alors bien sûr, c'est une série de photographies d'Orlan dans laquelle elle se présente drapée dans des draps qui sont les draps effectivement de son trousseau que l'on a aussi dans Plaisir brodé dont Fabienne parlait tout à l'heure. Et ces draps d'abord sont mis autour d'elle pour effectivement la transformer en Madone. Et petit à petit, elle se dévêt, elle lâche ses cheveux, elle dévoile sa poitrine et se transforme en fait depuis la Madone en une sorte de Marie-Madeleine ou de prostituée sacrée en tout cas. Et c'est vrai que Orlan a beaucoup joué sur ces figures archétypales et il est assez rare d'avoir eu, je trouve, des artistes qui se sont intéressés à des iconographies chrétiennes en les détournant.
C'est ça. Et Fabienne Dumont, c'est là où cette histoire de l'art rejoint celle des luttes féministes, parce que à ce moment-là, avec évidemment le MLF, mais d'autres mouvements, on en parlera, la question du corps devient centrale, au fond, dans la lutte.
Exactement. Elle rejoint vraiment les questions sur l'autonomie des femmes et la possession de leur corps. L'idée de « mon corps m'appartient, notre corps nous appartient » qui deviendra un ouvrage, c'est vraiment l'idée qu'on va avoir des luttes contre les excisions, pour le droit à la contraception, pour le droit à l'avortement. On a tout ça en même temps. Ça arrive, c'est 77, l'œuvre d'Orlan, c'est déjà là. Quoi. Il y a déjà eu toutes ces luttes qui sont passées et qui sont encore présentes. Donc il y a vraiment un fond, un contexte et aussi tout un contexte dans le champ de l'art de collectifs de femmes artistes qui se mettent en place en parallèle du mouvement militant. Donc elle est soutenue par tout ça.
Mon corps, mon choix. Écoutez ce que Christine Delphi en disait, c'était à la Fabrique de l'Histoire sur France Culture en 2003.
Christine Delphi, est-ce que le MLF est né formellement au moment où un groupe de femmes, je crois une dizaine, dont vous étiez, va devant l'Arc de Triomphe et dépose une gerbe à la femme du soldat inconnu?
Oui, en fait, on a essayé de déposer une gerbe à la femme inconnue du soldat. Bon, on avait quatre banderoles en tout, dont l'une disait « il y a plus inconnu que le soldat, c'est sa femme ». Bon. On avait aussi une autre banderole qui disait « un homme sur deux est une femme », en nous référant au sens prétendument générique du terme « homme », qui signifie « être humain ». Évidemment, sens qui n'est compris de personne, ce qui fait que les flics étaient très fâchés parce qu'ils pensaient qu'on disait qu'un homme sur deux était un PD. On n'est jamais arrivé à déposer cette gerbe. On a été tout de suite pris en charge, si je peux dire, par la police qui nous a amenés dans un poste de police. On voulait créer un événement spectaculaire en solidarité avec une grève des femmes américaines qui se déroulait le même jour, le 26 août 1970. Comme on était en août et qu'il n'y avait pas, vous savez, en août, la presse n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent, donc il y a eu au moins deux journaux qui ont fait leur gros titre là-dessus avec des photos. Ils ont intitulé d'eux-mêmes que nous étions un mouvement de libération de la femme et même de la femme française, tout ça avec des majuscules. Donc on peut dire qu'en effet, d'une certaine façon, le mouvement est né, en tous les cas il est venu au grand jour ce jour-là.
Subversion, dérision, création, tout ça dès le départ, au fond, dès l'origine du MLF, Fabienne Dumont, c'est pour ça que les artistes, les performeuses, auront beaucoup d'importance dans la mise en partage, au fond, de cette nouvelle imaginaire de la lutte.
Alors, je dirais, il y a deux choses. Il y a, pour moi, les manifestations en soi, avec tous les slogans qu'elles inventent, oui. la créativité des pancartes, des banderoles. J'en ai recité quelques-unes. Une femme sans homme, c'est comme un poisson sans bicyclette. Complètement absurde, mais en même temps tellement drôle, puisque voilà, comment on peut retourner, qu'est-ce qu'on fait, on rit avec ce type de propos. Ou une autre qui disait « Contre les mots d'ordre, je sors mon aspirateur ». Donc là aussi, c'est quand on parle de tâches domestiques et d'être assigné à cette tâche domestique, voilà, on sort de ça. Et puis, il va y avoir tout le travail, effectivement, des plasticiennes en parallèle, donc des collectifs et puis des individuels qui vont produire des dessins. André Marquet produit des dessins très intéressant de piles de vaisselle ou de piles de linge qui débordent de partout, qui disent les heures de travail auxquelles elles sont assignées. On a Léa Lublin qui dépose une banderole dans la Seine lors d'une journée d'action du collectif Femmes Art qui se tenait dans l'atelier de Françoise Janicot. Donc elle va mettre toute une série de stéréotypes qui concernent les femmes sur cette banderole qui est en collectif, voilà, jetée, dissoute dans la symboliquement dans la scène. Et puis voilà, on a toute une série comme ça de performances, d'actions qui surgissent et qui sont quand même particulièrement drôles. Et je crois aujourd'hui, en tout cas, moi, mes étudiants et étudiantes rient encore quand je leur présente ces travaux. Donc je crois que ça passe.
Camille Pollan, la vaisselle, le linge, tout ça est effectivement constamment détourné, notamment par André Marquet et d'autres de ces artistes que vous exposez à Dunkerque.
Oui, les questions domestiques ont été particulièrement prises en charge. C'est vrai qu'on a, nous, toute une section, en fait, qui est liée à ce qu'on a appelé tuer l'ange du foyer, en selon les mots de Virginia Woolf, qui appelait à se saisir de l'ange du foyer et à l'assassiner. Et je voudrais préciser, pour revenir sur ce que disait Fabienne Dumont, c'est que dès cette première action fondatrice du proto-MLF, on a déjà beaucoup d'humour. Et il faut quand même signaler que toutes ces femmes qui ont pris en charge ces réflexions politiques féministes, elles se sont quand même attachées à des sujets qui portent atteinte à l'intégrité corporelle, l'intégrité psychique des femmes, qui sont des sujets qui sont très peu drôles. L'avortement, la garde des enfants, le divorce, etc. Et on réussit malgré tout, non seulement à nous faire rire, et à continuer à nous faire rire aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est ça qui nous a marqué en pensant cette exposition, c'est que des œuvres qu'on expose aujourd'hui ont encore ce pouvoir humoristique, alors même que l'humour est quand même une des choses qui vieillit le plus mal au monde. Et donc c'est... ça, c'était une découverte qui nous a vraiment rempli de joie, oui.
Oui, rempli de joie, et c'est une joie effectivement féroce, c'est une joie militante, mais c'est une joie inentamée, parce que justement, on se pose toujours la question, quand on fait l'histoire de l'humour, est-ce que ça marche encore ? Pas tout, mais parfois, oui. Raymond Darcier, vous pouvez nous en dire un mot, c'est extraordinaire. Il y a une œuvre dans votre exposition qui s'appelle « Jeu de dames ».« Je nettoie, ils salissent », c'est une mosaïque de serpillères plus ou moins tachées.
Oui, alors Raymond Darcier, c'est une artiste qui a travaillé beaucoup les questions textiles en détournant certaines pratiques disons dites féminines comme le tricot, la couture, la broderie, et elle a construit des œuvres qui sont souvent assez monumentales, qui d'une certaine manière se confrontent avec ironie aux travaux des hommes. Et dans l'exposition, on montre deux œuvres, et notamment effectivement Jeu de dames, qui est une sorte de parodie à la fois de Karl André, du minimalisme le plus brutal de l'époque, et puis aussi de support surface avec la toile libre, et c'est fait de serpillères propres et usagées, avec aussi cette idée que les femmes ont souvent été mises du côté de l'impropre, du sale, du domestique, etc. Et donc Raymond Darcier y est allé de manière très frontale avec cette œuvre qui est à la fois minimale et très drôle.
Alors ce qu'il faut dire aussi, c'est que le féminisme, c'est un champ de lutte, Fabienne Dumont, qu'il y en a plusieurs, que tout le monde n'est pas d'accord, y compris compris d'ailleurs sur cette question de l'humour. Vous citez dans votre livre Christine de Buzon qui dit ben, « Nous, on pensait que ce que faisait Orlan, c'était totalement inapproprié. »
Tout à fait. C'est un écrit qui n'a pas été édité, mais qu'elle a diffusé ensuite auprès des chercheuses. Et il y avait plusieurs collectifs de femmes artistes à l'époque qui n'étaient pas sur les mêmes champs. Il y avait l'Union des femmes peintres et sculpteurs qui était devenue Féminis Dialogue sous la houlette de Christiane de Casteras, qui faisait de grandes expositions de femmes artistes. Mais voilà, c'était, il y avait un côté plus conservateur, même si Orlan a exposé en 77 une reprise et une critique de l'odalisque d'Ingres dans le cadre de cette exposition. Et puis à l'autre, il y en avait 5 ou 6 collectifs comme ça, et à l'autre bout de l'échelle il y avait le collectif Femmes en Lutte, qui était beaucoup plus radical, avec Esther Ferrer qui est montrée, Camille a aussi choisi de montrer certaines pièces, des jouets très drôles, qui mélangent des sexes, des phallus, des sextoys avec des jouets d'enfants. Donc il y avait, voilà, de ce côté-là des critiques où on ne fait pas d'œuvre, on critique et on remet en cause plutôt de manière ethnologique ce qui se passe dans la société.
Si votre livre s'appelle « Des sorcières comme les autres », Fabienne Dumont, c'est à cause ou grâce à cette chanson d'Anne Sylvestre en 1975.
S'il vous plaît, soyez comme le duvet, soyez comme la plume d'oie des oreillers d'autrefois. J'aimerais ne pas être portefeuille. S'il vous plaît, faites-vous léger, moi je ne peux plus bouger. Je vous ai porté vivant, je vous ai porté enfant. Dieu, comme vous étiez lourd, pesant votre poids d'amour. Je vous ai porté encore à l'heure de votre mort. Je vous ai porté des fleurs, vous émancelez mon cœur. Quand vous jouiez à la guerre, moi je gardais la maison. J'ai usé de mes prières les barreaux de vos prisons. Quand vous mouriez sous les bombes, je vous cherchais en hurlant. Me voilà comme une tombe et tout le malheur dedans. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi, celle qui parle ou qui se tait, celle qui pleure ou qui est gaie, c'est Jeanne d'Arc ou bien Margot, fille de vagues ou de ruisseaux. Et c'est mon cœur ou bien le leur, et c'est la sœur ou l'inconnue, celle qui n'est jamais venue, celle qui est venue trop tard, fille de rêve ou de hasard. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres.
Une sorcière comme les autres, Fabienne Dumont, c'est une chanson importante.
C'est une chanson clé que j'aime beaucoup, que je trouve en même temps militante, et comme c'est le faire Anne Sylvestre, elle raconte des petites histoires qui disent la grande histoire de ces femmes, des stéréotypes de ce qu'elles ont subi, de ce qu'elles ont vécu, les violences aussi et tout ce que ça a engendré, mais elle le dit de manière à ce que ce conte ou cette fable porte plus loin et nous porte, voilà, à pouvoir rebondir et sortir de cette histoire. C'est pour ça que j'avais intitulé mon ouvrage « Des sorcières comme les autres » en hommage, et aussi alors en hommage à Anne Sylvestre et en hommage à cette fameuse revue Sorcière,
oui,
qui était la seule revue féministe et culturelle. Il y a eu Le Torchon Brûle, il y a eu Les Femmes en Mouvement, il y a eu beaucoup d'autres revues, mais celle qui était vraiment uniquement culturelle, c'était Sorcière. Donc voilà, cette figure retrouvée, reprise de cette femme voilà, qu'on voue aux gémonies, cette sorcière à qui on fait subir et supporter toutes les avanies, reprise par les féministes pour revaloriser la figure.
Parce que ce livre, Des sorcières comme les autres, est aussi un livre sur les revues, sur les réseaux, sur la manière dont effectivement se construit le champ, pourrait-on dire. Et Camille Paulhan, c'est aussi un peu le cas de l'exposition Marade à Dunkerque, qui est une exposition d'archives également, hein, qui donnent à voir justement des connaissances, des influences, des stratégies aussi de visibilité. Tout cela s'organise, évidemment.
Alors c'est vrai que dans l'exposition, qui est une exposition d'art, hein, vraiment centrée sur les
années 70. Oui, il y a des œuvres d'art, mais elles sont entourées.
On a une grande section en fait qui est vraiment dédiée aux archives, parce que ça nous paraissait extrêmement important de montrer qu'il n'y avait pas que des individualités, ce qui peut parfois être une vision un peu étriquée de l'histoire de l'art, de penser qu'il y a justement des femmes extraordinaires, si différentes des autres, qui ont créé de manière solitaire. Et les archives nous permettaient de montrer justement ces moments collectifs en mettant en avant alors, des temps de lutte collective, des carnets de chansons qui étaient des chansons chantées par des femmes entre elles, des revues comme Bécassine en lutte, Clit 007, enfin il y en a énormément, et de montrer justement tous ces temps-là qui étaient des temps tout simplement de la sororité.
Alors justement, il y a également des affiches. Tenez, je vous en fais passer une qui est chère à votre cœur, Fabienne Dumont. C'est celle du MLAC qui est dessinée par Claire Bretéché.
C'est ça. Elle va réaliser cette affiche pour soutenir le mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception. Et ce qui est très drôle, c'est qu'elle a en quelques traits croqué ce qui est en train de se passer. On a un groupe de femmes, toutes en rouge, qui ont des mines patibulaires. Alors, elles ne rigolent pas. Nous, on rit, les voyant. Mais alors, elles ne rigolent pas. Il y en a une qui est assise et qui est en train de tricoter. Et ces fameuses aiguilles à tricoter, ça fait évidemment écho à l'interdiction de l'avortement et à toutes les abjections de ces avortements clandestins qui tuaient des milliers de femmes tous les ans en France. Il y en a une autre qui tient une pancarte un peu comme un cénotaphe, dur à l'aide, c'est l'ex, donc la loi est dure, mais c'est la loi. Et en face d'elle, il y en a trois patibulaires hommes. Un qui représente la justice, l'autre la médecine et l'autre la police, qui sont en train de leur interdire, en tout cas essayent d'interdire l'entrée de l'hôpital. Et donc cette confrontation et ce soutien de Claire Bretéché à ce mouvement-là est assez jouissif.
Bah écoutez, pour mettre en son le trait de Bretéché, écoutez, c'était l'année de la femme, les frustrés de Claire Bretéché, et vous allez reconnaître... Toujours 1975, d'ailleurs, Michael Lonsdal.
Alors, on est contente, hein? On l'a inauguré gentiment, son année de la FAFA. Je suis convaincue que notre société a besoin des valeurs féminines qu'elle a si longtemps méprisées. Si. Assez de terrorisme machiste, nous aspirons à une certaine douceur, une certaine sensibilité, et même, je dirais, à un certain humour. Oui, je dis bien un certain humour, car ne croyez pas que vous en êtes dépourvus, vous les femmes. Bien sûr, c'est un humour subtil, tout en nuance, mais pourquoi la libération de cet humour spécifiquement féminin ne serait-elle pas une source d'enrichissement pour la société tout entière, hein? Hein? Bon. Alors, nous sommes donc heureux de vous donner l'occasion de vous exprimer jusqu'au 31 décembre prochain, et nous prenons note de vos desiderata. Sympa, non? Hein, dit. Sympa, non? À condition, bien sûr, que vous ne vous dressiez pas contre nous, mais vous n'en ferez rien, car personne n'y gagnerait. Et puis, peut-être nous aimez-vous encore un peu. Hein? Ah, patience. Toi aussi, tu auras ton année, mon gros.
Et oui, vous êtes contente avec votre année de la femme. D'ailleurs, vous continuez à vous marrer dans le studio. Pourquoi ça s'appelle la marade, d'ailleurs? La marade, c'est pas la rigolade, c'est la rigolade au féminin, c'est ça?
Oui, en fait, l'exposition a changé plusieurs fois de titre. Ça a été compliqué de trouver un bon titre. Mais c'est vrai que la marade nous plaisait parce que c'était un peu entre la poilade, on savait pas trop. Et ce terme n'existe pas vraiment, il n'est pas dans le dictionnaire. C'est vraiment un terme très populaire. Et pour nous, le fait que ce soit très indéterminé comme ça, ça nous plaisait bien. Et c'est vrai que pour revenir sur cette archive, C'est incroyable, parce que c'est un archive qui a 50 ans cette année. Et bien sûr, elle nous fait rire. Elle continue à nous faire rire parce qu'il y a cette sorte de phallocrate, mais sympathique. Hein, je veux dire, un phallocrate plutôt charmant. Voilà, plein de bonne volonté qui autorise pendant un an les femmes à avoir leur année. Alors, ça fait référence à un événement, en fait, en 1975. L'année a été décrétée par l'UNESCO Année de la Femme. Donc, il y a eu des budgets pour cette fameuse Année de la Femme qui a évidemment donné quelques cheveux blancs aux féministes qui ont tout de suite désintégrer l'année de la femme en faisant des slogans qui disaient 1976 année du chien, 1977 année du cheval, et aussi en expliquant l'année de la femme n'est même pas bisextile.
Ouais. Voilà,
donc on n'a même pas ça, on n'a même pas réussi à gratter un jour en plus pour les femmes.
Et puis Claire Bretéger, c'est un génie, tout simplement, un génie de la narration et du dessin. C'est intéressant, Claire Polan, parce que dans votre livre, vous posez la question de l'incompatibilité possible, en tout cas possiblement culturelle, entre le rire et la féminité, et vous le mettez entre deux figures, l'une biblique, Sarah, et l'autre mythologique, grecque, Bobo. Est-ce que vous pouvez nous raconter rapidement ?
Oui, alors c'est vrai qu'on a souhaité vraiment revenir sur ces deux grandes figures. Donc la figure de Sarah est peut-être mieux connue, c'est un épisode du Premier Testament qui raconte que voilà, Sarah et Abraham sont très âgés et vont avoir la visite de Dieu par trois émissaires, trois anges qui vont leur annoncer qu'ils vont avoir un enfant. Les deux vont rire, Abraham et Sarah vont tous les deux rire, mais c'est Sarah qui va être punie, c'est Sarah qui va être réprimandée.
Son rire ne passe pas.
Son rire
Abraham
ne passe pas.
Abraham rit, c'est normal.
Voilà. En termes contemporains, on pourrait dire qu'elle a été silenciée par trois anges. Ouais. Et le rire d'Abraham est vu comme un rire joyeux et positif. Et le rire de Sarah, c'est un rire qui vient contrevenir à la puissance divine. Et le mythe de Baobo, donc, qui est un mythe de la tradition gréco-latine. Alors, on a différentes versions, mais globalement, c'est un mythe qui s'inscrit dans l'histoire de Déméter, dont la fille a été enlevée par Hadès, et qui, de malheur, de tristesse, empêche... Déméter est la déesse des moissons. Elle empêche les blés de pousser, donc ce qui pose vraiment des problèmes, ce qui provoque une famine. Et personne ne sait comment la sortir de sa nostalgie, de sa torpeur, de sa tristesse. Et Baobo, qui est une femme, on ne sait pas trop, c'est la femme d'un aubergiste, va soulever sa jupe, montrer ses parties génitales à Déméter et provoquer le rire de Déméter. Oui. Et ce rire met fin à la famine, puisque les terres redeviennent fertiles à la suite de ça. Donc c'est quand même un épisode extrêmement important. Qui a été très commenté, notamment par des psychanalystes. Et j'aurais tendance, moi, à le voir comme un geste vraiment d'amitié entre deux femmes.
C'est
c'est-à-dire une femme a fait rire une autre femme, ce qui est quelque chose de très
rare. Pour l'aider.
Pour l'aider, pour la sortir de sa nostalgie, de sa mélancolie. Alors que, par exemple, dans la Bible, on a très peu de rires de femmes. Après Sarah, il n'y a pas de rires de femmes.
Et ça, c'est évidemment au cœur de ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est-à-dire non seulement le rire comme arme politique, la dérision, mais aussi comme encouragement à la lutte, et en l'occurrence, ici, à la sororité. Écoutez Niki de Saint-Phal, parce que voilà, c'est une grande voix aussi. C'était sur France Culture en 1991.
Le féminisme, enfin l'obsession du féminisme est née de l'échec, entre guillemets, du premier mariage avec Henri Matthews ?
Ah non, absolument pas. J'étais féministe à l'âge de 12 ans. Ma mère avait un placard où elle rangeait le linge. Et je me rappelle un jour, je la regardais ranger, je dis, moi, je ne ferai jamais ça quand je serai grande. Jamais, jamais je ne compterai du linge. Elle m'a giflé. Il ne faut pas croire que c'est quelque chose d'extraordinaire. À ce moment-là, on giflait les enfants facilement. On n'était pas dans l'époque libérale. Alors moi, je recevais pas mal de claques et ils n'étaient pas spécialement monstrueux. Ça se faisait comme ça à l'époque. Et peut-être c'était pas si mal que ça. J'en ai survécu en tout cas. Alors, je me suis toujours rappelée de ça. Et d'ailleurs, et plus tard, j'ai préféré avoir mon linge volé que le compter. J'étais vraiment... Je ne voulais pas qu'on me donne un rôle. J'ai refusé mon rôle. Déjà en tant qu'enfant, je ne voulais pas ça. Je voulais avoir le choix de mon rôle. Et donc le choix, c'était pour moi une chose essentielle. Le choix de Harry Matthews était aussi le choix d'un homme, non seulement qu'il était génial et que je l'aimais follement, mais aussi ce qui était très extraordinaire à ce moment-là. Il a tout partagé avec moi, s'occuper des enfants, faire le marché. Moi, je faisais la cuisine parce que je préférais lui. Et ça ne lui faisait rien de faire l'aspirateur. Mais il fallait voir ma mère qui venait, qui s'arrachait les cheveux. Il te vole ton rôle. C'est pas possible. Alors pour moi, c'était impossible. Je dis, ça n'aura pas été avec nos caractères qui ne voulaient pas jouer un rôle non plus, qui était déterminé par des autres pour lui et qui avait envie de connaître aussi sa féminité.
C'était la mère Michel qui a perdu son chat.
France Culture.
Écrit par la fenêtre qui me le rendra. Et le père Lustucru qui lui a répondu.
Allons-y voir.
Oui, la mère Michel, votre chat n'est pas perdu.
Patrick Boucheron.
Elle était pas mal, hein, Fabienne Dumont, la première question. Vous êtes devenue féministe parce que votre mariage a mal tourné.
Elle est absolument
terrible. Elle est bien.
Mais en même temps, il a de l'humour sans le savoir.
Ouais, ouais,
et Niket Safal, elle a eu des paroles absolument cinglante en 65 quand elle présente ses premières nanas, c'est très cru.
Oui.
Elle dit vraiment que voilà, elle en a ras-le-bol et que là elle se libère, elles y vont et c'est vraiment le début en 65 où elle va mettre en scène ses nanas ensuite très colorées qu'on voit partout. Donc elle a vécu quand même un inceste, elle a vécu des violences dures, mais elle va les transformer pour faire quelque chose. Elle dit les nanas au pouvoir, il faut redonner du pouvoir, de la jouissance aux femmes. Et ça évoque aussi une autre artiste à laquelle on a fait un peu les mêmes reproches et questions, qui est Louise Bourgeois.
Oui, qu'on a entendu.
Une
là,
génération
chanter.
Plus un peu plus ancienne, et notamment qui, avec une grande malice, dans une photo qui est devenue très célèbre de Robert Mapplethorpe, qui date, la photo de 82, mais l'œuvre, elle date de 68, elle porte un Janus, donc un immense phallus sous le bras, et elle regarde avec grande malice le photographe, donc elle rigole avec ce qu'elle comme un petit bébé ou comme quelque chose, voilà, d'un peu
la
fragile,
fillette.
La fillette, voilà,
ouais.
Sous le bras. Et je trouve que voilà, cette manière très drôle de se réemparer des symboles sexistes et puis aussi sexuels, de se reprendre en charge sa sexualité aussi, son désir de femme, c'est tout à fait décalé et drôle.
Et vous nous disiez que pour justement désarmer cet humour cru, eh bien, certains livres recadrent cette photo en ne faisant pas voir justement la fillette, ce qui prouve quand même que cet humour, il reste subversif encore aujourd'hui.
Tout à fait, et Louise Bourgeois, elle a créé beaucoup, notamment il y a toute une scène aussi où elle va mettre à mort le père, dans une scène tout à fait sanglante, et effectivement c'est des pièces qu'on a rarement vues, elles ont ressurgi très tardivement, donc il y avait vraiment une difficulté à regarder et à voir ce qu'elle nous donnait à voir et ce qu'elle disait avec humour. Parce que c'est tellement gros que c'est aussi tragique et en même temps tragicomique.
Et Mathieu Pot-Bonneville, me direz-vous, directeur du département culture et création du Centre Beaubourg, il nous a envoyé une carte postale ? Ben oui, il nous a envoyé une carte postale.
Vous allez écrire un livre.
Un livre ? Mais je ne pourrais pas. J'ai déjà du mal à écrire une carte postale.
Cher Patrick, était-ce bien sérieux ? Le 4 juin 2015, eut lieu au Brooklyn Museum à New York une cérémonie d'un genre un peu spécial à l'initiative du Elizabeth A. Sackler Center for Feminist Art. Premier espace de cette ampleur dédié dans un musée américain au féminisme, le Sackler Center remet annuellement un prix pour distinguer les femmes qui marquèrent la culture de leur empreinte. Furent ainsi lauréates au fil des ans la prix Nobel de littérature Toni Morrison, la cantatrice Jessie Norman ou l'activiste Angela Davis. Cette année-là, accueillie par la remettante du prix, rien moins que Gloria Steinem, militante historique du mouvement de libération des femmes et figure majeure du féminisme américain, la récipiendaire n'avait pas la haute stature de ses prédécessrices, d'une blondeur éblouissante, scrutée depuis la salle par les grands yeux admiratifs de son compagnon vert-pomme, elle délivra un discours vibrant qu'il vaut la peine de citer. « Je crois que toute femme qui refuse d'accepter les idées préconçues de la société sur ce qu'elle peut être ou devenir est une féministe. Je crois que toute femme qui est prête à se battre, à lutter et si nécessaire à apprendre le karaté, pour laisser sa marque dans le monde, est une féministe. Et oui, je crois que toute femme qui se soucie de son apparence, de sa notoriété et surtout de son pourcentage sur les recettes est une féministe. Cette mention quelque peu décomplexée du pourcentage sur les recettes, la référence au karaté ou la couleur verte de son cavalier vous auront peut-être mis sur la voie, Patrick. La lauréate 2015 du prix n'était pas une femme comme les autres. Peut-être faut-il préciser que le Sackler Center est connu pour abriter l'œuvre monumentale de l'artiste Julie Chicago intitulée « The Dinner Party ». Une vaste table triangulaire dressée à 39 femmes, réelles ou mythologiques. Le couvert de la déesse Kali y jouxte celui de Virginia Woolf, la peintre Georgia O'Keeffe et la Judith de l'Ancien Testament y ont toutes deux leur rond de serviette. Aussi était-ce peut-être une manière de prolonger cette tablée que de remettre audacieusement le Sackler Center First Award à une marionnette de 80 cm de haut, d'une belle couleur rose, au groin expressif et connue dans sa langue originale pour se désigner elle-même en français « moi ». Miss Piggy eut donc cette année-là les honneurs du public. Kermit se contenta de l'applaudir depuis les gradins, cependant que la chaîne ABC lançait une sitcom sobrement intitulée « The Muppets » dont elle tenait, elle, le rôle principal. Était-ce bien sérieux? Les réactions furent variées. Entre la gratitude partagée par beaucoup de femmes d'avoir vu leur enfance éclairée par ce role model indomptable, et le léger embarras d'avoir à rappeler que, créé par Jim Henson et Frank Oz, deux hommes, Miss Piggy gravitait dans un univers plutôt masculin car, oui, qu'il porte des poils, des plumes ou des écailles, à l'exception d'une formidable bassiste au look 70s, les Muppets, ce sont plutôt des mâles. Parce que c'est plus simple et ça va de soi. Qu'elle soit une cochonne, par contre, ne contraria personne. Car comme le rappelle le titre de l'article du magazine Time, « Why I am a feminist pig », expression détournant le « male chauvinist pig » qui qualifie aux États-Unis les phallocrates, Piggy fut sans doute élue pour une double capacité. Retourner le stigmate et en retourner une à quiconque se permettrait d'en douter. 10 ans plus tard, à bord de Air Force One, le président des mêmes États-Unis fit taire une journaliste d'un « quiet Piggy » qui lui n'avait rien d'une plaisanterie. Honnêtement, Patrick, parfois, on a juste envie de crier «
Lui aussi, il tente des choses, il est plein de bonne volonté, Mathieu, pas de bonne ville. Camille Paulhan, c'est, oui, il y a quelque chose d'intéressant quand même dans cette ce mésusage contemporain d'un humour gras, sexuel, par justement comme bras armé du masculinisme. Raison de plus pour vous, pour rappeler l'histoire de la marade féministe des années 70. Pour vous, il y a toujours au fond une actualité. Dans cette défense et illustration d'un rire libérateur.
Oui, alors j'avais une de mes craintes quand l'exposition a été montée, c'est d'entendre que finalement on riait bien avant, mais qu'aujourd'hui on savait plus du tout rire et surtout que les féministes n'étaient plus drôles alors qu'avant elles l'étaient. La perspective de l'exposition n'était pas du tout d'être là-dedans, mais plutôt de montrer, au contraire, que les féministes des années 70 avaient généré une potentielle transmission sur cette question humoristique et qu'il y avait aujourd'hui des échos extrêmement forts dans la société contemporaine.
Dans l'art contemporain, mais pas seulement.
Non, pas seulement, parce que, évidemment, dans l'art contemporain, là, je pense qu'on aurait pu faire une toute autre exposition avec beaucoup d'autres artistes. Mais surtout, il suffit d'aller à une manifestation du 8 mars pour voir à quel point les slogans sont d'une drôlerie, sont incroyables
d'inventivité,
ouais. De sarcasme, d'imagination. Je veux dire, tout ça n'a pas changé, mais au contraire, c'est amplifié, avec beaucoup de bonheur. Oui,
oui, c'est-à-dire que ce dont vous nous parliez, Fabienne Dumont, c'est-à-dire ces origines situ ou lettristes des premiers slogans féministes, on les entend toujours. Aujourd'hui dans les manifestations, mais différemment en fait.
Oui, mais disons qu'il repose toujours sur les mêmes choses, c'est-à-dire on prend des sujets d'actualité, on les détourne, hein, calmez-vous, ça va bien se passer, tout ça, c'est des choses, on va en voir des détournements très, très, très joyeux.
Thank you.
Ailier Jacques Nomain dans la main 1980. Bonjour Sophie Crasse.
Bonjour.
Alors, ça vous inspire quoi tout ça ?
Eh bien, ça m'inspire des comptabilités féministes. Alors, allons-y.
T'es sûr ?
Les femmes doivent-elles être nues pour entrer au Metropolitan Museum ? Tel est l'intitulé provocateur d'une affiche désormais célèbre que l'on trouvera accrochée au sein de l'exposition La Marade. À l'appui de cette question apparemment absurde, deux statistiques implacables. Moins de 5% des artistes exposés dans la section d'art moderne sont des femmes, alors que 85% des nus représentés sont féminins. L'affiche a été réalisée en 1989 par le collectif des Guerrilla Girls, qui à cette époque s'occupe, entre autres choses, de comptabilité. Leurs affiches, cartes postales, stickers se distinguent au premier coup d'œil par un graphisme simple et percutant et par un débordement de chiffres. À New York, 49,2% des chauffeurs de bus sont des femmes, alors qu'elles ne sont que 16% parmi les artistes représentés par les grandes galeries. Et les Guerrilla Girls de conclure que les compagnies de bus sont en somme bien plus à l'avant-garde que les galeries d'art. Le nombre d'artistes, le nombre d'œuvres, l'âge, les revenus, les prix de vente, les Guerrilla Girls comptent tout, au point de s'être fait une spécialité d'une méthode qu'elles appellent alors les Winnie Counts.
On peut traduire par un...
Le comptage de Zizi.
Voilà, c'est ça.
Voilà. Cette comptabilité féministe bouscole plusieurs clichés. Le cliché de la fille qui serait nulle en maths, mais aussi l'idée selon laquelle les statistiques seraient foncièrement ennuyeuses. Au contraire, la combinaison de l'humour et du calcul sont au cœur de ce que les sociologues Isabelle Bruneau et Emmanuel Didier, avec l'artiste Julien Prévieux, ont appelé le stat-activisme, ou comment lutter avec des nombres. Pour faire des statistiques une arme critique, il faut d'abord compter ce qu'on ne comptait pas, et donc ce qui ne comptait pas.
Et de ce point de vue, les Guerrilla Girls ont ouvert une voie fondamentale pour le féminisme d'aujourd'hui dans le monde de l'art, hein, c'est ça.
Il faut prendre la mesure du sexisme, répète la critique d'art Maura Reilly, arguant que seul un décompte citoyen systématique sera susceptible d'exercer suffisamment de pression sur les acteurs du monde de l'art, des galeries jusqu'au musée. Car l'impression que les choses ont changé est souvent disproportionnée par rapport au rythme réel du changement tel qu'attesté par les chiffres. Au Centre Pompidou, en 2000, on comptait à peine 5% d'œuvres d'artistes femmes parmi les œuvres exposées, soit le même pourcentage que celui dénoncé par les Guerrilla Girls en 1989, mais aussi le même pourcentage que deux siècles plus tôt dans les salons de l'Académie de peinture avant la Révolution française. En 2009, l'accrochage entièrement féminin, elle, au Centre Pompidou toujours, fut une expérience marquante et très commentée. Mais attention, lors du réaccrochage en 2011, retour à la normale avec une moyenne de 10% d'œuvres de femmes exposées. Et aujourd'hui encore, la plupart des musées d'art moderne et contemporain dans le monde ont bien du mal à dépasser les 20%.
Alors il faut compter.
Alors bien sûr, l'établissement de statistiques fondées sur le genre n'est pas sans écueil. Ça peut donner l'impression de réduire la singularité des artistes à un chiffre. Ça suppose aussi d'enfermer chacun, chacune dans une catégorie binaire, homme ou femme, loin de la fluidité qu'on pourrait revendiquer. Mais la pratique a l'avantage d'objectiver des situations. Et compter est devenu, pour beaucoup, un réflexe professionnel. Anna Alkema, aujourd'hui directrice adjointe des musées de Dunkerque, raconte que c'est la première chose qu'elle a faite en prenant son premier poste à Dunkerque. Résultat, 11% d'artistes femmes dans les collections du lieu d'art et d'action contemporaine de Dunkerque. Avec les budgets d'acquisition actuels des musées, même en achetant exclusivement des femmes, année après année, il faudrait plus d'un siècle pour atteindre la parité. Alors, elle a misé sur des expositions temporaires, comme La Marade. L'exposition défend un certain humour, un humour féminin, un humour pour soi. D'une certaine manière, elle invite aussi à imaginer et à compter des chiffres à soi. Contrairement aux comptes publics ou à ceux de la Banque de France, la comptabilité domestique était traditionnellement tenue par des femmes. Et je pense à une très belle œuvre de l'artiste Blanca Casas Brulé qui s'intitule « Reprise économique ». Il s'agit d'un cahier de comptabilité qui a été littéralement reprisé à l'aide de fils de couture de couleur. L'œuvre évoque donc ces travaux domestiques quotidiens au rang desquels entrent à la fois la comptabilité et la couture, dont aucune statistique économique ne témoigne. Là où la comptabilité domestique maintenait ses chiffres dans l'intimité du foyer, la comptabilité féministe les en tire et les expose publiquement, à la manière de l'affiche des Guerrilla Girls. Parce que compter, c'est rendre compte, c'est dire ce qui compte, Et c'est parfois, avec humour bien sûr, régler ses comptes au détour d'une bonne vanne.
Merci Sophie Crasse. Bah oui, voilà, c'est ça, comptabilité et couture. On ne l'avait pas vu venir, ça, avec Camille Paulhan.
Mais... celle-là, je ne l'avais pas vu venir. Ceci étant, je voulais quand même préciser que dans mon exposition, il y a un homme.
Ben oui, mais un homme de bonne volonté.
J'en ai trouvé un.
C'est qui ?
Ah, Michel Journiac.
Ah ben voilà.
Et c'est toujours agréable d'avoir un schtroumpf au milieu de schtroumpfette, quand la plupart du temps c'est l'inverse, d'avoir une schtroumpfette au milieu de schtroumpf. Mais moi aussi j'étais de bonne volonté. J'ai cherché, j'ai pas trouvé.
Fabienne Dumont, évidemment c'est important aussi dans votre démarche d'historienne de l'art, de toujours rappeler, vous l'avez dit tout à l'heure, que c'est pas parce qu'il y a quelques artistes femmes qu'on va rechercher comme ça, mettre en lumière, en exaltant une individualité, qu'on aura fait tout le chemin, non ? C'est le tout début, en fait.
Ah, c'est tout, le tout début. Alors, compter, effectivement, il faut le faire parce qu'il faut toujours qu'on prouve la discrimination. Donc, quand on l'a mise sur la table, c'est un premier pas. Puis ensuite, eh bien, il faut défaire la construction de l'histoire de l'art. Et ça, c'est une autre paire de manches. Aller regarder comment on fabrique ces canons qui ne reconnaissent que des artistes hommes. Et voir aussi, on n'en a pas parlé, mais Orlan, elle va embrasser des femmes. Donc,
oui,
il y a aussi les questions de sexualité qui sont aussi discriminées et qui s'associent souvent pour lutter contre toutes ces grosses machines, ce système qui phallocrate, comme le disait Françoise Daubonne, qui nous enferme et qui nous essaye de nous placer dans des rôles et dans des situations. Donc on compte, on décompte et on déconstruit.
Ah oui, parce qu'on a aussi compté aussi le nombre de visiteuses et de visiteurs. Ils étaient à peu près à parts égales à l'exposition du Grand Palais d'Orlan. Et justement, Sophie Crasse, vous qui êtes une historienne de l'économie de l'art, ben on revient au début de cette émission. Fondamentalement, ce qui était en jeu aussi avec le geste d'Orlan, c'était bien à la fois la marchandisation du corps de la femme et de l'art et de du capitalisme artistique.
Oui, bien sûr, et avec cette particularité qu'il s'agit à la fois de penser la marchandisation de l'art, mais aussi la juste distribution des revenus, puisque à l'époque et encore largement aujourd'hui, la disparité de revenus entre artistes hommes et artistes femmes est très importante.
Et puis 5 francs, hein, 5 francs c'était bien choisi aussi, parce que c'était une grosse pièce, sonnante et trébuchante, et qui permettait effectivement de faire du bruit, justement.
Et de rendre l'art accessible à toutes les bourses.
C'était Allons-y voir. Merci à vous trois, Camille Paulhan, Fabienne Dumont et Sophie Crasse. Les références de vos parutions, livres, catalogues sont à retrouver sur la page de notre émission. Une émission préparée par Anouk Minaudier, à la prise de son Julien Moulet et à la réalisation Laurence Millet. Merci à vous toutes et tous.